Belle journée sur Radio Chablais. Nous sommes le vendredi 20 mars et il est 6h. Ouais, c'est un peu dur. Mais vous inquiétez pas, on va se motiver puisqu'on est ensemble de 6h à 9h et on a plein de choses à faire.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Et pour commencer, voici le journal présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Isaura, bonjour à tous. La nouvelle association Villeneuve Bilingue veut répondre à la connaissance du suisse-allemand dans tout le Chablais. Depuis juin 2025, les trois fondateurs de l'organisation transmettent chaque semaine bénévolement leur connaissance du dialecte helvétique à une dizaine d'enfants de 4 à 12 ans. Par cet enseignement, l'association souhaite faire connaître la culture suisse-allemande au plus grand nombre tout en créant à terme des échanges concrets entre les deux régions linguistiques. Souvent boudées dans notre région, l'apprentissage du Schweizerdeutsch suscite un intérêt certain, à tel point que Villeneuve Bilingue propose depuis janvier des cours accessibles destinés aux adultes, avec le soutien de la commune. Philippe Gerber, président de l'association Villeneuve Bilingue.
C'est vraiment des cours orientés sur la pratique, où on va avec les enfants, par exemple, travailler sur un bricolage ou travailler sur quelque chose de très très pratique pour encourager l'utilisation de la langue. Et pour les adultes, c'est vraiment des mises en situation avec des dialogues, des répliques un petit peu types dans des situations types pour arriver à se débrouiller dans la vie quotidienne.
Des propos recueillis par Anthony Dacompo. Le bilinguisme franco-allemand demeure un enjeu professionnel en Suisse romande. Environ 62% des Suisses sont germanophones.
Un oiseau familier met en danger.
À l'occasion de la Journée mondiale des moineaux, la station ornithologique suisse rappelle que ses compagnons du quotidien déclinent fortement en Europe. Si leur population reste stable en Suisse, elle a chuté de manière spectaculaire dans certaines grandes villes, comme Paris ou encore Londres. Les spécialistes appellent à agir, notamment en favorisant la biodiversité dans les jardins et en limitant l'usage de pesticides.
Depuis plusieurs dizaines de jours, la guerre entre l'Israël et l'Iran embrase le Moyen-Orient.
Un conflit que nous suivons à distance, mais presque en temps réel. Malgré les coupures d'internet sur place, les images affluent en masse sur les réseaux sociaux. Vidéos amateurs, images spectaculaires, extraits parfois difficiles à vérifier. Jamais les images de guerre n'ont autant circulé. Le problème, c'est que toutes ces images n'ont pas la même origine. Certaines viennent de témoins sur place, d'autres d'acteurs politiques et parfois même, elles sont issues de l'intelligence artificielle. Un élément supplémentaire qui vient donc compliquer la bonne compréhension de tout ce qui se passe sur place, comme en témoigne Olivier Glasset, sociologue des médias et maître d'enseignement à l'université de Lausanne.
Ah oui, rendre compte d'une guerre, ça n'a jamais été facile pour les professionnels, mais alors c'est vrai que dans la prolifération des contenus, il n'a jamais été aussi facile, ça a toujours existé, des fake news et des productions de fake news, mais il n'a jamais été aussi facile de produire des extraits de films ou de récupérer des morceaux de films ou de transformer des éléments de contenu audio et vidéo et d'en créer de toutes pièces. Et ça a une double fonction. Premièrement, on se pose tout le temps la question de est-ce que ce que je suis en train de voir est vrai ou généré par l'intelligence artificielle. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que cette question-là, elle ne se pose pas uniquement par rapport au contenu tellement extraordinaire qu'il nous paraisse questionner la réalité. Mais maintenant, on voit bien que même sur des images qui sont reprises sur des médias traditionnels ou des images qui sont vérifiées, dans les commentaires, cette question de est-ce que c'est vrai ou faux, elle est posée systématiquement. En fait, dans cette situation-là, ce qui triomphe, c'est pas l'intelligence artificielle, on pourrait dire, mais c'est le doute généralisé. Et c'est sans doute un des buts qui est recherché par certains des protagonistes.
Olivier Glasset répondait à Ludovic Turin. Une guerre qui se joue loin d'ici, mais aussi désormais sur nos écrans. Et dans ce contexte, l'armée israélienne annonce avoir mené aujourd'hui de nouvelles frappes à Téhéran. Elle viserait des infrastructures liées aux autorités iraniennes. L'annonce a été faite par l'armée sur les réseaux sociaux, justement, sans plus de détails à ce stade.
Sauf retournement de situation ce matin lors des votes finaux, le Parlement fédéral recommandera de rejeter l'initiative sur la neutralité de l'UDC.
Un concept trop strict qui empêcherait la Suisse de prendre des sanctions contre un autre pays. Pourtant, il a fallu les 3 semaines de session au Parlement et de nombreux va-et-vient entre les deux chambres pour décider de ne pas adopter de contre-projet. Comme le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis, le libéral radical vaudois Laurent Verly explique pourquoi cette initiative est inutile. Ville.
Parce que c'est justement pas la question. La neutralité, elle est déjà citée deux fois dans la Constitution, aux articles 173 et 185. La question était quel texte voudrions-nous mettre en plus que ce qui est déjà ? Respectivement, est-ce que c'est pas du texte qui doit plutôt être dans une loi ? Parce que ça doit laisser une certaine flexibilité, non pas d'être neutre ou pas neutre, mais des modalités concrètes de mise en œuvre de la neutralité. Et rien que ça justifie déjà de ne pas vouloir soutenir cette initiative, pas parce qu'on veut pas la neutralité suisse, mais parce qu'on veut justement une neutralité suisse positionnée correctement par le principe dans la Constitution, dans le détail de l'application, dans une loi.
Au Conseil des États, une alliance contre nature entre l'UDC et le centre a longtemps réclamé un contre-projet direct pour préciser dans la Constitution quelle neutralité la Suisse doit appliquer. La fribourgeoise Isabelle Chassot l'a défendue avant de se ranger parmi les opposants au texte de l'UDC.
Je l'ai estimé nécessaire pour deux motifs. Le premier, parce que la neutralité est un élément constitutif de l'identité de notre pays. Et secondement, parce que nous avons maintenant une initiative qui va beaucoup trop loin et nous n'avons pas à lui opposer un contre-projet dans lequel nous reconnaissons l'importance de la neutralité, mais dans lequel nous indiquons aussi qu'en revanche, l'initiative, elle, va trop loin. C'est avant tout aussi, je crois, pour la campagne et la communication sur cet élément que ça me paraît important. J'ai des soucis, pour ma part, pour la campagne qui va s'ouvrir lorsque nous devrons voter sur cette initiative.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Hubin. Le peuple aura le dernier mot l'automne prochain.
En hockey sur glace, le HC Martigny a réussi son entrée dans la finale suisse de Première Ligue.
Les Octoduriens se sont imposés 2-1 hier soir face aux Grisons de Prettigau lors du premier acte d'une série qui se disputera au meilleur des trois rencontres. Menés 1-0, les Valaisans ont tout de même dû faire preuve de patience pour renverser la situation. Alessandro Vicen a égalisé à la mi-match avant qu'Adrien Martinez ne donne l'avantage aux Rouges et Blancs. En cas de victoire demain à l'extérieur, le HC Martigny serait sacré champion national de 4e division suisse.